Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Regard aujourd'hui sur le numérique comme espace de confrontation et les conséquences politiques de l'usage des données comme instrument. Quels sont les acteurs, les enjeux? Peut-on parler d'un tournant numérique de la géopolitique? Force est évidemment de constater la prise de conscience aujourd'hui de l'importance de ce nouvel espace. Après le territorial, le maritime et l'aérien, voici le quatrième espace, celui de l'informationnel, dans lequel les données deviennent un enjeu essentiel. L'espace informationnel planétaire, c'est aujourd'hui 40 000 milliards de données, un espace que l'activité humaine double tous les 18 mois, vertigineux. Regard sur les enjeux géopolitiques du cyberespace avec nos invités. Frédéric Douzet, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et directrice du projet Géode, géopolitique de la datasphère. Bonjour.
Bonjour.
Et Amaël Katarouza, maître de conférence à Saint-Cyr et au centre de recherche des écoles de Couët-Quidan, chercheur à Géode et auteur de Géopolitique des données numériques, pouvoir et conflit à l'heure du Big Data aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Certains des enjeux éthiques et politiques les plus graves auxquels nous avons aujourd'hui à faire face sont directement liés à l'essor des nouvelles technologies. La généralisation de l'usage de l'ordinateur a lancé le processus vertigineux de la numérisation. Quels sont les enjeux liés à l'espace informationnel? Et pour commencer, peut-être une définition d'une donnée et en quoi les données sont-elles devenues pour les États des outils de puissance? Amaël Katarouza.
Je dirais, définir une donnée, ça, il y a déjà une définition un petit peu technique, tout simplement. Là, on va traduire des phénomènes sociaux en code binaire, donc c'est des séries de 0 et de 1. Mmh. Quand bien même la donnée elle-même, la notion de donnée, elle est antérieure à la numérisation. Hein. On peut avoir, elle remonte dès l'Antiquité aux premières façons de traduire des phénomènes sous la forme de chiffres. Il y a une définition technique, mais la définition technique ne suffit pas à comprendre l'ensemble des enjeux qui sont attachés aux données.
Mmh. Alors, ces enjeux ?
On voit bien que dans le monde actuel où l'ensemble de nos comportements vont être traduits en données, on voit bien que, ne serait-ce que déjà, le comportement des États vis-à-vis des données est très différent. Mmh. On voit bien, par exemple, les différences culturelles qui peuvent exister entre, par exemple, la question des données privées, qui vont faire l'objet d'une protection en Europe et peut-être d'une marchandisation plus grande dans les États-Unis. Donc là, vous avez des enjeux, déjà, qui montrent que la données, c'est pas simplement un outil technique, mais que derrière, vous avez aussi des représentations culturelles, politiques qui peuvent y être associées.
Alors, marchandisation, je retiens ce mot, je vous passe la parole, Frédéric Douzet.
Oui, je crois qu'il faut faire attention, les données en elles-mêmes ne donnent pas une information, c'est la capacité à les croiser, à les mettre ensemble, à les exploiter, qui permet d'en tirer de l'information et d'en tirer de la connaissance. Et la connaissance, elle devient de plus en plus importante et de plus en plus fine au fur et à mesure qu'on transforme en données numériques à peu près toutes les activités humaines. Donc cette connaissance très fine, de plus en plus exhaustive, permet d'obtenir un avantage stratégique. Alors ça peut être, on parlait de marchandisation, mais ça peut être sur un marché précis, parce qu'on va connaître mieux l'utilisateur grâce à ses données personnelles. On va aussi connaître ses habitudes d'achat, de déplacement. Donc on va savoir tout un tas de choses sur lui qui va permettre de lui proposer, avant même parfois qu'il en ait eu l'idée, un produit qu'il va se retrouver à acheter. Et puis ça peut donner pour les États un avantage stratégique absolument majeur. Par exemple, on prend la cartographie. La cartographie, c'est quelque chose que les États ont toujours fait. La connaissance du territoire, c'est très important. C'est important d'abord de connaître son propre territoire pour connaître ses forces et ses vulnérabilités, mais aussi le territoire des autres quand on veut mener une opération militaire, quand on veut investir sur un marché. Aujourd'hui, on voit que les moyens déployés par Google en cartographie sont nettement supérieurs à de nombreux États avec une connaissance très fine du territoire qui permet aussi l'anticipation. Et donc, on voit bien à quel point on a des différences de données, de capacités entre les États, mais de plus en plus, on a aussi des différences et des déséquilibres entre la connaissance que possèdent les États et la connaissance que possèdent les plateformes, les grands géants du numérique, qui collectent de grandes masses de données et sont capables, à partir de ces grandes masses de données, de faire une cartographie fine du territoire, de voir se développer une pandémie, d'anticiper des mouvements sociaux, simplement en croisant des données d'ordre extrêmement différents, mais qui, mises ensemble de manière intelligente, vont permettre de produire une information.
Alors, on avait voulu croire qu'avec Internet, on assistait à la dissolution des rapports de force dans une sphère des échanges de savoir devenus égalitaires. Évidemment, Amaël Katarouza, il n'en est rien.
Ben, oui, effectivement, c'était un petit peu l'idéal des années 90 de dire que finalement les frontières étaient abolies, qu'on pouvait échanger de manière libre et que Internet allait presque devenir un espace de liberté entre les individus. C'est vrai que depuis déjà quelques décennies maintenant, depuis le début des années 2000, on a bien vu que cet espace était non seulement pas un espace de liberté, parce que on a vu dès le début des années 2000 des problèmes commencer à apparaître, notamment sur le par exemple, la diffusion d'un certain nombre d'idées néo-nazies qui pouvaient être autorisées aux États-Unis et qui posaient un vrai problème juridique en Europe. Et ça a été parmi les premières failles dans lesquelles on a vu apparaître une territorialisation Internet, des organisations des droits de l'homme demandant à Yahoo de fermer ses sites en Europe. Mais on a vu aussi assez tôt également des attaques commencer à émerger contre l'individu, mais aussi contre les États. Faut se rappeler que parmi les premiers signes de faiblesse qu'on a vu et de vulnérabilité qu'on a vu apparaître, l'attaque en mai 2007 de l'Estonie, qui était un pays qui avait pris énormément d'avance dans tout ce qui est e-commerce, des gestions internet, d'administratives, etc. L'Estonie a été paralysée pendant près d'une semaine ou deux du fait d'une attaque massive contre ses serveurs.
Frédéric Douzet.
Oui, je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'espace numérique, c'est une nouvelle dimension des conflits géopolitiques. Tout ce qui s'y passe est lié à des rapports de pouvoir géopolitiques. Donc c'est une nouvelle dimension et c'est un nouveau champ d'affrontement. Et c'est vrai qu'au démarrage, cet espace, en fait, l'Internet a été créé par des universitaires. C'était un lieu d'échange dans lequel on ne se posait pas la question de la sécurité. Et puis c'est un lieu qui a été progressivement étendu à des usagers individuels, des organisations, des entreprises. Donc on a eu de plus en plus d'internautes. Et au départ, on voyait que ça favorisait en fait les utilisateurs qui étaient les plus agiles, les plus rapides, et donc le faible par rapport au fort, hein, puisque les États, par définition, sont moins agiles, sont plus lents à se mettre en route. Mais je crois que les États ont bien saisi les enjeux, ont investi des moyens considérables, et aujourd'hui, si on regarde les moyens que peuvent avoir les individus de se protéger ou de mener des opérations par rapport aux capacités que peut avoir un État de développer de la surveillance et d'identifier ses utilisateurs, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans...
Ça, c'est une des surprises, finalement, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que, de facto, les rapports de force n'ont juste pas changé. Alors, c'est intéressant maintenant, à ce stade de l'émission, peut-être, de voir un petit peu quelles sont les visions des uns et des autres. On va parler des Chinois, on va parler des Russes, les Américains. Frédéric Douzet.
Les rapports de force ont quand même évolué dans la mesure où il y a... on n'est pas sur une égalisation, mais on est quand même sur la possibilité par des groupes ou des individus de mener des opérations qui peuvent très fortement perturber l'activité des États ou d'une entreprise. Donc il y a quand même une capacité à donner du pouvoir à des personnes ou des structures qui, dans le monde réel, en ont moins. On voit très bien que si on se place même au niveau des rapports entre les États, pour qu'un État acquiert la puissance nucléaire, ça prend des années, c'est très long, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec les armes numériques, il y a la possibilité de réaliser un effet stratégique, même si on ne fait pas tomber une infrastructure d'importance vitale, mais au moins de provoquer un effet important à partir de moyens qui ne sont pas forcément énormes. Et donc, on n'a pas besoin de la même puissance économique et des mêmes ressources humaines que on en besoin les États pour développer l'arme nucléaire.
Quelques exemples peut-être. Alors l'arme nucléaire, mais à quoi vous pensez
Si on prend par exemple un exemple qui a fait énormément de bruit et qui a profondément déstabilisé l'administration américaine en 2016, ce sont les manœuvres qui ont été attribuées aux Russes et l'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Si on regarde d'un point de vue technique et du point de vue des moyens déployés, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une intrusion dans les serveurs du Parti démocrate américain, on a volé des emails et on les a publiés sur Internet. D'un point de vue technique ou d'un point de vue des moyens, c'est absolument dérisoire. Voilà. Du point de vue de l'effet que ça a produit, ça a jeté un doute sur l'intégrité du processus électoral américain. Ça a jeté un doute sur qu'est-ce que les Russes vont être capables de faire par ailleurs. Alors, il y avait eu des petites opérations aussi qui avaient été menées dans certains États sur les registres d'électeurs qui ont suscité de la panique. Est-ce que les Russes vont être capables de hacker les machines à voter? Qu'est-ce que ça peut déclencher derrière? Et puis, on a eu des opérations informationnelles également attribué à la Russie, qui relève de l'influence, qui ont posé un problème démocratique et éthique extrêmement compliqué, et un problème de droit international, qui était comment on réagit, d'abord comment on réagit vis-à-vis de l'État auquel les attaques ont été attribuées, et d'ailleurs comment on fait pour les attribuer, pour commencer, ce qui n'est pas simple, comment on réagit vis-à-vis des plateformes qui ont laissé finalement se diffuser toute cette information, qu'on a appelée fake news, mais est-ce que c'est de la fausse information, comment on distingue finalement ce qui est faux mais n'a pas de mauvaise intention de ce qui n'est pas juste ou ce qui est biaisé et qui a une mauvaise intention et comment on fait pour lutter contre ça. Donc toutes ces questions-là sont extrêmement déstabilisatrices pour les démocraties. Il y a des enjeux qui sont très importants et en même temps les solutions ne sont pas simples et tout ça c'est fait à partir de moyens techniques et financiers dérisoires.
Alors le conflit syrien également, hein, pour parler de quelque chose qui nous est probablement plus proche en tout cas dans le temps, la guerre de l'information qui tient une place prépondérante avec la Russie qui a déployé une stratégie informationnelle tous azimuts, désorientant les opinions publiques occidentales et divisant leurs dirigeants. Un commentaire peut-être, Amal Katarota ?
Le cyberespace aujourd'hui donne des capacités de diffusion de l'information relativement nouvelles et c'est vrai que certains acteurs comme la Russie qui ont depuis... traditionnellement investi ce champ de l'information, même du temps de l'Union soviétique, ont été parmi les premiers acteurs à vraiment investir complètement le champ du cyberespace avec un certain nombre d'organes, y compris de presse. Hein, on pense à Russia Today, on pense à des organes comme Sputnik, qui sont des organes qui vont permettre justement de diffuser la voix de la Russie par le biais du cyberespace. Et effectivement, là, on a un nouveau champ qui permet aussi à des acteurs non étatiques. Je pense par exemple à Daesh, puisqu'on parler de la Syrie, de capter un champ de l'information qui lui était inaccessible auparavant. Donc là, c'est vrai que du point de vue de l'informationnel, on a aujourd'hui, ce média permet finalement, d'une certaine manière, je dirais presque un rééquilibrage des forces entre ce qui était auparavant l'apanage des acteurs publics et on voit aujourd'hui que des acteurs privés peuvent assez facilement avoir une audience plus large et par le biais des réseaux sociaux, on a aussi là aussi des capacités de saisir des auditeurs de façon assez large. Voilà.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez, Frédéric Douzet, l'identification de l'origine d'une attaque. Elle est compliquée sur Internet, ce qui rend évidemment difficile la mise en œuvre du droit à la légitime défense. La retenue joue un rôle central dans la gestion des crises aujourd'hui.
Oui, la retenue. Alors la retenue dans tous les sens du terme. Je crois que pour l'instant, on n'a aucun État qui a utilisé sa pleine puissance de cyberattaque contre un autre État. Et je pense qu'il y a beaucoup de retenue pour la bonne raison qu'on ne sait pas très bien ce que ça peut donner. C'est-à-dire que on est dans un système qui est complètement interconnecté. Donc les interactions sont multiples, elles ne sont pas toujours connues, elles ne sont pas toujours comprises. Donc quand on attaque une structure, on ne sait pas très bien comment est-ce que le virus risque de se propager et de faire tomber une autre infrastructure. Finalement, donc ça nécessite, pour mener une attaque sophistiquée, de cartographier des réseaux et d'être vraiment sûr de ce qu'on fait. Et j'avoue que quand j'entends certains acteurs parler de frappe chirurgicale dans le cyberespace, ça me fait très peur parce que je pense qu'on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Un autre sujet qui est de plus en plus d'actualité, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle en cybersécurité. Donc on y réfléchit pour défendre les systèmes, mais on sait aussi que les États et certains acteurs réfléchissent à l'usage de l'intelligence artificielle pour mener des attaques. Et on risque de se trouver à un moment donné dans un système où on a des attaques intelligentes qui vont produire des choses qui n'auront pas nécessairement été complètement anticipées par leur créateur, puisqu'elles vont apprendre au fur et à mesure et se développer, et peut-être rencontrer des intelligences artificielles de cybersécurité, ce qui va donner finalement des affrontements dont la vitesse dépassera l'entendement humain.
Un exemple concret, parce que là j'ai l'impression qu'on part dans des sphères juste totalement surréaliste, en tout cas pour le néophyte que je suis sur ces questions-là, Frédéric Bouzet.
Un exemple concret, un attaquant va vouloir faire tomber le système de transport d'un pays. Et donc, il va développer un outil d'attaque qui va être intelligent, qui va se développer, cartographier et puis petit à petit chercher comment rentrer dans le système pour faire dérailler un train, pour produire quelque chose. Il peut être contré par aussi une autre intelligence artificielle qui va chercher à l'incapaciter. Mais si ce réseau, par malheur, est connecté d'une façon ou d'une autre à une autre structure, ça peut créer en cascade des phénomènes. Donc on est sur des affrontements qui, à un moment donné, peuvent aussi nous échapper. On a eu quelques alertes, on a eu les attaques WannaCry et NotPetya qui se sont propagées de manière extrêmement rapide en provoquant des dégâts à travers 150 pays qui ont... On a vu avec NotPetya les installations de Saint-Gobain qui ont été très durement touchées. On a vu les hôpitaux britanniques qui, de la même façon, n'ont plus accès à leurs données. Donc ce type d'attaque, finalement, qui visait initialement un système et qui se propage très vite, c'est un scénario qu'on peut envisager, voire se répéter.
Alors justement, dans son rapport sur l'état de la menace liée au numérique en 2019, la délégation ministérielle aux industries de sécurité et la lutte contre les cybermenaces insiste sur les impacts concrets des cyberattaques sur le business des entreprises touchées. En 2018, 80% des entreprises françaises, pour ne parler que d'elles, mais puisqu'il est question de la délégation ministérielle française, 80% des entreprises françaises ont constaté au moins une attaque, un tiers d'entre elles en ont subi plus de 10. Amal Katarouda, est-ce que les Français ne se sont pas protégés suffisamment ?
D'abord, je pense que y a un temps de décalage entre le moment où on a commencé à comprendre que la menace existait et le moment où on a vraiment réussi à mettre en place des structures. Et la difficulté de se protéger sur ce type d'attaque, c'est que le champ des attaques est très très large en réalité. On semble penser que la menace, elle ne se passe qu'au niveau étatique avec des attaques très perfectionnées, mais 90% des attaques auxquelles font face les entreprises privées et les acteurs privés en général, voire même les individus, sont des attaques qui, on l'a dit tout à l'heure, sont des attaques relativement basiques, relativement simples, qui peuvent être mises en place par des acteurs finalement assez légers, enfin des individus ou des groupes d'individus. Donc le problème du cyberespace et de l'espace numérique en général, c'est que on a une grande diversité d'acteurs qui peuvent chacun agir avoir des actions malveillantes avec des impacts quelquefois différents en fonction des acteurs. Moi, je crois que surtout que ce qui est difficile, c'est que c'est une menace qui est en permanente évolution. On parlait tout à l'heure de 2007, je vous parlais de ce premier un petit peu, cette première sonnette d'alarme. 2007, c'était une attaque contre l'Estonie, contre un État, qu'on pensait identifier un acteur à l'origine, qui aurait été la Russie, et puis on avait finalement une attaque assez, entre guillemets, traditionnelle d'un point de vue géopolitique, d'un État face à un autre État. Bon. On évoque tout à l'heure WannaCry, on a là une attaque qui s'est diffusée de manière mondiale, sans forcément de logique géopolitique évidente. Et là, effectivement, on est déjà, 10 ans plus tard, face à quelque chose qui est relativement nouveau en termes de menaces. Et effectivement, en 10 ans, on voit que les réponses face à ce type de menaces n'ont pas forcément complètement évolué. Juste pour conclure, la cyberguerre qu'on imaginait, à partir de l'attaque estonienne, a amené notamment les États à statuer sur qu'est-ce que c'est qu'une attaque, est-ce qu'on peut, comment réagir à une attaque. On voit bien que les réponses juridiques qui ont été données ne permettent pas véritablement de répondre à ce type d'événements que sont WannaCry ou NotPetya.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Amal Katarouda et Frédéric Douzet après le journal. À tout de suite.